Les dessous de l'Infox. François Bernard.
Bonsoir, merci de nous accueillir à l'écoute de Radio France Internationale.
Les dessous de l'Infox.
Les complotistes ont des sujets de prédilection pour ne pas dire d'obsession. Les élites toutes puissantes, les médias à leurs bottes, la pédophilie des grands de ce monde, le dévoiement des processus électoraux ou la vaccination pour asservir les populations. Les thématiques complotistes ont des centres d'intérêt limités mais récurrents. On en parlera avec Tristan Mendès-France, il est auteur, animateur du moins d'Antidote, c'est une chronique hebdomadaire sur le complotisme diffusé sur France Inter. Il vient également de publier un livre illustré qui a pour titre « Internet, une infographie ». C'est aux éditions CNRS. Une photo qui prétend montrer une manifestation contre la présence française au Niger. C'est un faux. C'est en réalité la photo d'une marche pour protester contre l'assassinat d'un étudiant. Vérification faite par Monique Gomaya, qui est journaliste à l'AFP Factuel, le site de vérification de l'agence France Presse, qu'on retrouve en fin d'émission. Mais tout de suite, la chronique, les dessous de l'Infox. Sophie Malibaud, Grégory Genevrier, bonsoir.
Bonsoir.
Alors cette semaine, la chronique des Dessous de l'Infox revient sur l'ouverture aux États-Unis du procès de Ghislaine Maxwell. C'est l'ex-compagne de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein accusé de crimes sexuels commis durant plusieurs décennies. Mais au-delà des faits, certains s'empressent d'instrumentaliser l'affaire sur les réseaux sociaux. On fait le point avec vous, Grégory.
Alors le procès très médiatisé de Ghislaine Maxwell s'est ouvert ce lundi à New York. L'ex-compagne de Jeffrey Epstein comparée pour son implication dans l'instauration d'un vaste trafic sexuel. Elle est notamment accusée d'avoir recruté des jeunes femmes parfois mineures entre 1994 et 2004. Et ce qui rend cette affaire particulièrement sulfureuse, ce sont les liens d'amitié autrefois entretenus par Jeffrey Epstein avec de grandes personnalités comme le prince Andrew, Donald Trump ou encore Bill Clinton. Décédé en prison en 2019, Epstein, le milliardaire, a emporté avec lui de nombreux secrets. D'où le déferlement d'Infox autour de ce scandale sur les réseaux sociaux.
Oui, alors en parallèle du procès qui se déroule aujourd'hui devant la justice américaine, viennent aussi s'agréger sur les réseaux toute une série d'accusations fallacieuses n'ayant aucun rapport avec les faits établis. Des publications virales évoquent notamment la démission ce lundi du fondateur et PDG de Twitter, Jack Dorsey, comme si cette annonce avait un quelconque rapport avec le procès Maxwell. Le PDG du réseau social n'est pas le seul visé par ces infox. Une liste annonçant en même temps la démission des dirigeants de la société Walmart et puis de la chaîne télé CNBC a déjà été partagée près de 17 000 fois sur Twitter. Mais tout est faux dans ces affirmations.
Alors, la démission de Jack Dorsey de Twitter est un fait avéré. Quel est donc son rapport avec le procès Maxwell ?
Eh bien, il n'y a absolument aucun rapport puisque son départ était en réalité pressenti depuis longtemps déjà. Certains actionnaires lui reprochaient notamment d'être à la tête de plusieurs sociétés au détriment de Twitter. Dorsey a annoncé de son côté qu'il était temps pour lui de se retirer. Quant au lien suggéré entre cette démission et le procès, il est tout simplement inexistant. D'ailleurs, les autres démissions annoncées sont tout simplement de pures inventions. Mais la théorie exposée par les complotistes va encore plus loin. La publication avance que le variant Omicron serait notamment une fabrication pour éclipser le procès dans les médias. Les complotistes vont même jusqu'à invoquer la tuerie ce mardi dans le lycée Oxford dans le Michigan comme un autre moyen de diversion.
Alors, expliquez nous Sophie, pourquoi relier tous ces événements qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres ?
Eh bien, sous ces allégations, on retrouve un narratif bien rodé. C'est toujours un peu la même mécanique qui se met en place et agrège les gros sujets d'actualité du moment. Avec à l'arrière-plan la théorie du deep state, l'état profond, la grande main manipulatrice qui, selon les adeptes des thèses conspirationnistes, orchestrerait tous ces événements à l'échelle planétaire. Le lien créé artificiellement entre ces sujets est totalement arbitraire. Dans le cas de Jack Dorsey, le fait qu'il soit à l'origine de la fermeture du compte Twitter de Donald Trump et de figures du complotisme comme Alex Jones pourrait expliquer qu'il soit ciblé tout particulièrement. On est aussi dans un narratif véhiculé par la mouvance QAnon qui relie toutes les affaires de pédocriminalité à une élite, je cite, mondialiste sataniste. Ce récit franchit les frontières et séduit des figures de l'antisémitisme comme Alain Soral en France qui théorise le lien entre les Juifs et l'état profond.
Le procès va durer 6 semaines, 6 longues semaines durant lesquelles ces infox et les théories qui les accompagnent vont donc continuer de se propager.
Les dessous de l'infox.
Voilà le numéro WhatsApp pour nous contacter sur la page de l'émission et puis une autre chronique bien sûr la semaine prochaine. Merci à tous les deux. La lutte contre le complotisme se joue sur de nombreux fronts. Il faut pointer les mensonges, rétablir la vérité. Il faut aussi désigner ceux qui propagent l'infox et en tirent parfois des profits financiers considérables. Il faut réfléchir à la manière dont on devrait réglementer les réseaux sociaux pour faire en sorte qu'ils restent des outils d'échange et de convivialité et cessent d'être le support de haine ou de la désinformation.
On en parle.
On en parle avec Tristan Mendès-France. Il est co-animateur d'Antidote. C'est une chronique hebdomadaire sur le complotisme diffusée sur France Inter et auteur d'un livre illustré qui a pour titre « Internet, une infographie ». C'est au CNRS édition. Bonsoir Tristan Mendès-France.
Bonsoir.
Alors avant de jeter un œil sur ce dernier livre, je voudrais qu'on évoque cette chronique que vous animez chaque vendredi sur une des radios nationales françaises, France Inter. Ça s'appelle cette chronique Antidote, cela parle complotisme, ses thèmes de prédilection, la manière dont émergent les théories du complot, ceux qui les propagent. Comment s'est décidée la création de cette chronique ? Vous en avez fait la proposition ou c'est France Inter qui s'est manifesté ?
Alors, on m'a effectivement proposé d'animer cette petite pastille avec une grande liberté éditoriale. Et je crois que c'est une question qui interpelle beaucoup de monde aujourd'hui. C'est un sujet qui est devenu mainstream, comme on dit. Et donc, je crois que ça correspondait à une cohérence éditoriale de cette radio publique.
Un besoin évident, effectivement, de décrypter le phénomène et ses enjeux. On va prendre quelques exemples des chroniques récentes que vous avez proposées. Celle du 19 novembre, par exemple, revient sur la théorie complotiste de la dépopulation. C'est une vieille idée, n'est-ce pas, remise au goût du jour.
Oui, c'est une vieille idée qui traîne depuis pas mal d'années maintenant, plus d'une vingtaine d'années, notamment dans les milieux complotistes. Et l'idée, c'est que les puissants de la planète chercheraient en fait à réduire la population en détruisant, en faisant une sorte de génocide des plus pauvres ou alors d'une partie significative de la population, avec un agenda toujours derrière, alors souvent financier. Et cette théorie vraiment infuse dans pas mal de communautés complotistes, avec des argumentaires plus ou moins différents suivant les communautés qui s'en revendiquent. Et c'est quelque chose qui est assez toxique, parce que c'est une vision assez radicale, assez disons essentiel, où quand on considère qu'une partie de l'élite mondiale cherche à détruire la population, bah forcément c'est une cible légitime, pourquoi pas, parfois avec des actions violentes.
Et puis il y a un corollaire à cette idée d'un petit groupe tout puissant qui dirigerait le monde et lui imposerait sa loi. Ce corollaire, c'est une sexualité perverse de cette élite. Alors votre chronique du 5 novembre a pour titre « La pédocriminalité dans l'univers complotiste ». C'est récurrent, la dénonciation de la perversion sexuelle supposée des grandes ce monde pour les complotistes.
Oui, c'est un grand, grand classique. Alors, encore une fois, la pédocriminalité existe. Elle existe aussi parmi les membres de l'élite, mais comme tout le reste de la population. Mais c'est dans l'imaginaire complotiste, en tout cas, un fantasme assez récurrent qu'on retrouve même chez les fameux QAnon, cette mouvance totalement folle aux États-Unis qui a soutenu Trump et qui est apparue en 2017. Et avec cette idée pour eux, pour les QAnon, qui a plutôt une élite pédo-sataniste. Alors, c'est un degré un peu au-dessus. Mais la pédocriminalité est souvent quelque chose qui est véhiculé dans certaines communautés complotistes parce que c'est un combat vraiment essentiel. Et quand on se drape de cette tenue de chevalier cherche à sauver la petite enfance, évidemment, votre combat devient essentiel, devient, j'allais dire, maximaliste. Ça permet à certains vraiment de basculer dans un complotisme total, absolu, parce qu'ils pensent que leur cause est légitime et juste.
Alors une autre chronique de novembre et un sujet particulièrement important en ce moment, c'est le réchauffement climatique, le dérèglement du climat. La sphère complotiste compte encore des climato-sceptiques ?
Malheureusement, oui. Il y a même une sorte de revival depuis la pandémie du coronavirus. Et il y a même d'ailleurs une synthèse qui s'opère entre ce qu'on appelle les covido-sceptiques, entre la complosphère autour des questions sanitaires et de la question climatique. Alors l'épisode de la COP26 a été aussi le moment d'une réactivation de certains discours complotistes. Et je crains que dans les années qui viennent, la question du climat soit vraiment le lieu d'une grande effervescence complotiste. C'est déjà le cas un peu aujourd'hui, mais ça le sera très certainement beaucoup plus demain.
Parlons de votre livre, qui est une espèce d'exploration, de panorama de ce qu'offre Internet aujourd'hui, avec comme caractéristique principale d'ailleurs qu'il est très illustré. On peut même presque dire que ce sont des illustrations agrémentées de très nombreux commentaires, de chiffres, de graphiques. Pourquoi avoir choisi ce format-là ?
Alors c'était quelque chose qui me tenait à cœur et qui est en fait un format, ce qu'on appelle infographique. Donc c'est en fait uniquement des infographies. Il y a peu de textes, il y a surtout des images qui sont des statistiques, des données. Et c'est une façon de donner à voir surtout ce qu'Internet a pu impacter dans nos vies. Et c'est assez vertigineux parce que ça touche vraiment tous les secteurs de notre vie, de la société. On peut parler de sexe, de politique, mais on peut évidemment des objets connectés et de plein d'autres choses. Mais disons que cet aspect visuel était une façon, disons, d'employer un langage un peu universel d'ailleurs, et d'être, encore une fois, de donner à voir plutôt que d'écrire du texte pour qu'on comprenne.
Rappelez-nous le nom de votre collaborateur infographiste.
Oui, c'est Quentin Leeds qui a fait un travail magistral de mise en forme de toutes les données que j'ai essayé de glaner à gauche à droite. Et c'est vraiment le résultat d'une conversation continue pendant près de 2 ans pour essayer de, encore une fois, de faire ressortir des données, des courbes, des statistiques, des data sur le temps pour qu'on voit soudainement apparaître, je ne sais pas moi, des pratiques particulières de consommation de musique en ligne avec l'effondrement de la musique physique, des disques et des CD, et de l'explosion de la consommation de streaming et de plein d'autres sujets assez déroutants parfois peut-être, comme la question liée à la mort sur Internet, qui est un vaste sujet passionnant, je trouve. Et on a réussi à trouver des datas, des données pour aussi, encore une fois, faire prendre conscience que ça a aussi modifié notre relation à la mort.
L'Internet comme propagateur principal de la désinformation. Vous êtes d'accord avec ce postulat ?
Oui, aujourd'hui, simplement parce que Internet est devenu l'un des plus gros tuyaux à travers lequel les humains de la planète s'informent. On parle d'infosphère en gros, en général. Eh bien, l'infosphère aujourd'hui, c'est-à-dire l'économie de l'information, disons l'écosystème de l'information mondiale, passe par Internet, les réseaux sociaux et le web plus spécifiquement.
Mmh. Vous êtes aussi membre de l'Observatoire du conspirationnisme qui a pour but, dites-vous, d'assécher les sources de revenus des médias qui sont accusés de diffuser des messages haineux et conspirationnistes. Et on sait que ces revenus sont parfois considérables. Quel est votre stratégie, votre action dans ce domaine?
Oui, alors je pilote effectivement un projet à l'intérieur de cet observatoire du conspirationnisme qui s'appelle Stop Hate Money. Et l'idée, c'est de responsabiliser les acteurs économiques qui permettent aux discours complotistes de se déployer. Parce qu'il faut savoir que tous ces discours-là, qu'ils soient haineux ou complotistes, peuvent utiliser, je ne sais pas moi, des plateformes de financement participatif, profiter des publicités de Google sur leur site web pour se financer, peuvent utiliser des plateformes de paiement en ligne. Bref, il y a tout un écosystème d'entreprises qui ne sont pas elles-mêmes complotistes ou haineuses, mais qui, parfois même sans le savoir, sont utilisées par ces communautés-là. Eh bien, l'idée avec Stop Hate Money, c'est vraiment d'interpeller ces entreprises et simplement de leur faire prendre conscience, libre à elles après de donner suite à nos interpellations. Elles font ce qu'elles veulent, mais en tout cas qu'elles le sachent. Et parfois, d'ailleurs, ces communautés vont à l'encontre des conditions d'utilisation de ces propres plateformes. Donc, c'est une façon de les alerter.
Mmh. Alors, il y a ce qui est facilement visible sur Internet, sur les réseaux sociaux traditionnels, YouTube, Facebook. Il y a aussi, et vous l'évoquez dans votre livre, la face cachée de l'Internet, ce qu'on appelle le dark web. Qu'est-ce qu'on y trouve et faut-il en avoir peur?
Alors, dark web, il faut bien le différencier du deep web. Alors, c'est un peu technique tout ça, mais le deep web, c'est en gros tout ce qu'on ne voit pas quand on utilise un moteur de recherche comme Google. Donc, tout ce qui n'est pas référencé, les pages privées, les pages qui nécessitent un mot de passe pour qu'on y accède. Et ça, c'est vraiment l'essentiel, d'ailleurs, des pages qui existent sur le web mondial. Le dark web, c'est encore plus complexe et plus profond. C'est des espaces où, pour accéder, il faut un outil spécifique. Il faut un programme, il faut un navigateur particulier pour accéder à ces petits espaces, à ces poches informationnelles qui elles-mêmes sont encore plus sécurisées, encore plus anonymisées, comme on dit. Et c'est tout un espace qui est utilisé par des gens qui cherchent à se protéger d'abord, qui cherchent peut-être à éviter d'être harcelés par leur gouvernement quand le pays est autoritaire. Et puis c'est aussi évidemment un endroit où des choses illégales se font. Alors on peut vendre de la drogue, des objets volés, des numéros de carte bleue et je ne sais quoi. Donc c'est un espace assez ambivalent qui est à la fois inquiétant, mais qui est aussi un espace de liberté. Mmh. Il faut aussi le souligner.
En quelques mots pour conclure, Tristan Mendès-France, cette lutte contre la désinformation, elle semble sans fin. C'est une guerre qui peut être gagnée ?
Je crois que c'est un processus qu'il faut enclencher. L'espace informationnel ne sera jamais, j'espère, jamais totalement contrôlé, bridé. Il faut qu'il y ait un espace, une respiration de liberté, donc ça c'est absolument essentiel, mais il faut qu'il y ait aussi une dynamique de contre-offre informationnelle, de discussion démocratique sur ce qu'on accepte ou pas en ligne. Tout n'est pas accepté, hein. La liberté d'expression est première, mais même dans l'espace public en France, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, la diffamation, des appels au meurtre, évidemment, il y a quand même une certaine limite. Et cette discussion de la limite des propos sur Internet doit être le résultat d'une dynamique et d'une conversation et d'un débat vraiment démocratique.
Qui se poursuit en ce moment. Merci Tristan Mendès-France, animateur d'Antidote, chronique hebdomadaire sur le complotisme diffusé sur France Inter et auteur de Internet, une infographie au CNR. NRS Édition. Merci et bonsoir. On retrouve Monique Ngomayag, journaliste à l'AFP Factuel, le site de vérification de l'agence France Presse, en ligne de Dakar. Bonsoir Monique.
Bonsoir.
Vous vous êtes récemment intéressée à une image qui est censée montrer une manifestation contre la présence de l'armée française au Niger.
Oui, on voit sur cette photo des centaines de jeunes gens vêtus de rouge et noir et rassemblés sous un ciel bleu. Ça ressemble à une manifestation. Cette photo a été très partagée en Afrique de l'Ouest, notamment au Niger et au Burkina Faso. Selon la légende du post Facebook, il s'agit, je cite, « d'une marche contre la présence française au Niger à Tassouva ». Sous ces publications, on peut lire pas mal de commentaires hostiles à la France. Mais comme nous avons pu le démontrer, cette photo n'a rien à voir.
Alors pourquoi autant de réactions ?
Eh bien parce que la présence militaire française au Sahel est de plus en plus critiquée et l'hostilité a pris un tour très concret depuis une quinzaine de jours avec une manifestation anti-française au Burkina, au passage d'un convoi militaire en route vers le Mali. Des manifestants accusaient le convoi de transporter des armes pour les djihadistes. Il faut avoir en tête que la situation au Sahel est très complexe. Les groupes djihadistes y sont très actifs, alors même que les Français, au travers de l'opération Barkhane, sont précisément censés les combattre. Pour ne rien simplifier, la France a décidé d'alléger sa présence en quittant certaines bases au nord du Mali, aux grandes dames de Bamako.
Pour autant, vous dites, Monique, que la photo utilisée n'a rien à voir avec une quelconque manifestation anti-française au Niger.
Absolument rien à voir. En faisant une recherche d'image inversée, on l'a retrouvée dans un tweet du 18 novembre. L'auteur évoquait une manifestation d'étudiants au Niger. Ceux-ci demandaient justice pour un de leurs camarades assassinés. Avec cet indice, nous avons effectué une recherche sur Facebook avec les termes « manifestation étudiant Tawa assassinat », ce qui nous a mené vers une publication du média en ligne Niger Scoop, avec là aussi mention d'une marche de protestation d'étudiants accompagnée de plusieurs photos de manifestants, y compris celles que nous recherchions.
Et votre recherche ne s'est pas arrêtée là.
Effectivement, il fallait encore retrouver l'auteur de la photo. Nous avons contacté Niger Scoop via Facebook. Ils nous ont donné le nom du photographe et ses coordonnées. Celui qui a pris ces photos, c'est un journaliste de la radio et télévision Tambara à Tawa, dans le sud-ouest du Niger. Il nous a confirmé qu'il avait bien pris les photos dans la ville de Tawa et nous a d'ailleurs envoyé sa série de photos prises ce jour-là, dont celle qui nous intéressait. Il nous a expliqué aussi que cette manifestation avait pour but de réclamer que justice soit faite sur le meurtre d'un étudiant.
Vérification faite.
Et voilà, utiliser une photo existante pour justifier une fausse information, on en a l'habitude et comme à chaque fois, on ne se laisse pas avoir grâce à nos fact-checkers. Aujourd'hui, Monique Ngomayag, journaliste à l'AFP Factuel, le site de vérification de l'agence France Presse. Merci, à bientôt sur RFI et bonsoir à Dakar. Voilà, c'est la fin des Dessous de l'Infox. Merci de votre attention. Vous retrouvez le podcast de toutes nos émissions sur notre site internet. Au générique des Dessous, aujourd'hui attaché de production Florence Ponce, à la documentation Déborah Lepage, à la réalisation Claude Battista et à la présentation
François Bernard.
Qui vous dit bonsoir et à la semaine prochaine sur RFI.